ensemble ce matin la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans le livre des Lamentations de Jérémie. Le PowerPoint est sur le bureau. Il ne va pas tarder à s'afficher. Merci beaucoup. J'ai la main, c'est merveilleux. Lamentations de Jérémie au chapitre 3, s'il vous plaît. Versets 19 à 27, nous avons commencé depuis quelque temps, dans le cadre de cette série de messages « Il restaure mon âme », nous avons commencé à considérer des chemins. La Bible nous montre clairement qu'il existe des chemins, de véritables chemins de restauration. Peu importe qui l'on est, par quoi on est passé, peu importe la situation, qu'elle soit individuelle, collective, ecclésiale, peu importe le besoin. La Bible est claire, il existe de véritables chemins de restauration, mais s'il en existe de vrais, il en existe aussi de faux. Et ces faux chemins, en réalité, sont des autoroutes, comme nous l'avons vu, des boulevards de facilité dans lesquelles notre âme nous conduit naturellement. Nous n'avons rien, malheureusement, c'est naturel, nous n'avons rien à faire pour que notre âme parte toute seule sur des boulevards de facilité qui se terminent toujours par des pièges, des impasses, qui nous détournent du véritable sentier de la justice, de l'approbation, de la bénédiction de Dieu, de la restauration, de l'avenir qu'il a pour nous. Il existe de faux chemins de restauration, et il y en a, évidemment, merci Seigneur, de vrais, de véritables. Et je ne peux pas résumer ce que nous avons vu dans les messages précédents, tous les messages sont en ligne sur le site si vous le désirez, mais ce matin, voilà ce que j'ai à cœur de partager avec vous, frères et sœurs, c'est cette parole de Jérémie. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et nous lisons donc dans Lamentations chapitre 3, à partir du verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Là, quand on lit ça, on se demande si quand ils l'ont jeté dans la citerne, sa tête n'a pas tapé un peu trop fort contre les murs pour dire ça. Hein. Il est bon, on va le voir. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse. Amen. L'essentiel de mon message, bien-aimé, va tourner autour de ce sujet, cette question tellement importante, question fondamentale de nos pensées. Nos pensées peuvent être un véritable obstacle à la restauration que Dieu veut accomplir dans chacun des cœurs, et je le répète, quelle que soit votre situation, qu'elle soit personnelle, peu importe votre historique, que ce soit un historique d'église, de couple, personnel, d'enfance, peu importe votre histoire collective, individuelle, nos pensées, bien-aimés, c'est un principe général, nos pensées peuvent réellement être problématiques et entraver la restauration que Dieu a déjà prévue dans chaque cas de figure pour chacun d'entre nous. Quelques généralités sur nos pensées, beaucoup de généralités parce que c'est l'essentiel de mon message. J'ai déjà été amené en vous parlant de David qui était parti sur une pensée, qui était parti chez Achish. Je vous avais dit que effectivement nos pensées sont beaucoup plus puissantes. Nous n'en avons certainement pas conscience. Mais nos pensées, frères et sœurs, sont puissantes. Nos pensées détermine nos choix. Elles conditionnent nos directions. Elles orientent chacune de nos décisions. Consciemment ou inconsciemment, nos pensées nous orientent. Quand Jérémie, lui, justement, là je vous ai remis, je n'en reparle pas, hein, David est allé s'égarer 16 mois chez Achish, je vous ai remis la référence, on a vu tout ça, mais il s'est égaré 16 mois pour une, pas pour un système de pensée, pour une pensée. Il a décroché pendant un instant, sa pensée n'était plus alignée sur la pensée de Dieu, une pensée, 16 mois d'errance et de douleur et de gâchis. Quand Jérémie lance cet appel solennel, Jérémie 18, il lance cet appel au peuple. Le Seigneur aime son peuple, mais le peuple n'a pas seulement besoin de restauration, le peuple a besoin de réformer son cœur, il a besoin de réformer ses voies, il a besoin de repentance, il a besoin de changement intérieur. Et Jérémie lance cet appel solennel, Jérémie 18, réformez vos voies, c'est-à-dire votre façon d'être, réformez vos œuvres. Mais ils disent, je lis pour vous, je ne vous fais pas chercher, mais ils disent, mais le peuple dit, c'est en vain ce que tu prophétises, c'est en vain, c'est inutile, parce que nous suivrons nos pensées. Jérémie 18. Le peuple dit ce que tu dis, Jérémie, prophète de l'Éternel, ne sert à rien, nous suivrons de toute façon nos pensées. Nous suivrons les penchants de notre cœur. Nos pensées, bien-aimés, ça, c'est ce que m'apprend déjà ce premier point, sont puissantes et déterminent nos directions. Nous devons comprendre aussi qu'il existe, bien-aimés, trois sphères de pensée. Il y a la sphère de Dieu, il y a la sphère de l'ennemi, de nos âmes, le diable, puissance maléfique, qui ont aussi des pensées, un message, un plan, un avenir. Et il y a la pensée de l'homme. Il y a trois sphères de pensée. Dieu, l'ennemi et l'homme. Et moi, je suis réceptif par ma nouvelle naissance aux pensées de Dieu, par sa parole et par le Saint-Esprit, par la vie nouvelle. J'ai aussi en tant qu'être humain, malheureusement, mes propres pensées qui ne sont pas toujours suffisamment alignées sur la pensée de Dieu. Et puis j'ai aussi, je capte ce qui vient du monde spirituel, parce que je suis corps, âme, je suis esprit aussi, et je capte les pensées. Et le diable, lui, il est certes, par la victoire de Jésus à la croix et la résurrection, on l'a confessé, il est vaincu. Il est lié, il est totalement lié, il est lié dans une chaîne éternelle, et il n'a plus aucun pouvoir. La légende d'Assono, ils sont déjà en train de me regarder avec des gros yeux. Et il n'a plus aucun pouvoir sur toi, sur moi. Le seul pouvoir qu'il peut avoir, c'est celui que je veux bien lui laisser quand j'écoute ses mensonges. C'est tout. Quand je ne suis pas sur le sentier de mon Seigneur, là, il va commencer à m'attraper. Mais je perçois ses pensées. Et ici, on a un des meilleurs exemples, Matthieu chapitre 16, ce moment où Jésus, après avoir dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Révélation magnifique, tu es le Christ, Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Et puis, comme ils ont bien compris qui est Jésus, le Seigneur va à ce moment-là commencer à leur dire pas seulement qui il est, mais comment il va faire pour sauver l'humanité, nous sauver de nos péchés, et montrer le chemin de croix, d'injustice par lequel il va devoir passer pour que nous soyons là ce matin. Et là, Pierre, alors qu'il vient d'avoir une révélation magnifique, et Jésus lui dit, c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé ces choses, c'est pas la chair et le sang. Donc ta pensée n'est pas humaine, tu as capté la pensée de Dieu, Pierre. Et 30 secondes après, il dit à Dieu, ne plaise, Seigneur, pas la croix, pas toi, ça ne t'arrivera pas. Et là, le Seigneur lui répond, arrière de moi, Satan. Tes pensées me sont en scandale, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais ne sont que des pensées humaine, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, tes pensées ne sont que des pensées humaines. Et on voit ici se définir en une seule phrase de Jésus, très nettement, on voit se définir la question des sphères de pensée. C'est pour ça, bien aimé, que nous avons souvent insisté sur le fait que la Bible, la parole de Jésus, n'est pas seulement là pour nous révéler qui est Dieu. Mais si c'est déjà merveilleux qu'il daigne se révéler à moi. La Bible n'est pas seulement là pour me révéler qui je suis, Mais ça ne me plaît pas, mais combien j'en ai besoin. La Bible est là aussi pour m'amener à penser comme Dieu pense, à imprimer son caractère, à imprimer en moi sa façon de raisonner, de penser, de voir, sa façon d'agir, sa façon de réagir aux situations, sa façon de se positionner, ma façon de me positionner comme lui pour trouver les sentiers de la justice. Et ici, dans ces trois sphères de pensée, on se rend compte que Pierre, ayant reçu une révélation extraordinaire du Père, c'est Jésus qui lui dit, 30 secondes après, heureusement que Jésus avait du discernement et qu'il ne l'a pas écouté, parce que sinon Jésus n'allait pas à la croix. Hein. Et là, on était tous mal. 30 secondes après, il a dit une bêtise qui était plus grosse que lui. Mais ça ne concerne que Pierre. Parce que moi, je ne peux pas dire un truc intelligent et dire une grosse bêtise 30 secondes après. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Mais quand j'ai compris le système des sphères de pensée, ça m'amène à de la vigilance, à de la prudence, et même, je vais vous dire, ça m'amène à de la méfiance. J'apprends à me méfier de mes propres pensées. Et là, Pierre était comme nous, souvent plein de bonne volonté, plein de bons sentiments. Oui, dans ce que Pierre disait, il y avait une logique certaine. Comment le saint, le juste, l'irrépréhensible, celui qui ne fait que du bien, comment pourrait-il prendre sur lui le châtiment d'un malfaiteur? Seigneur, il n'y a aucune logique dans ce que tu dis. Oui, humainement parlant, ce n'est pas logique. Et ce que Pierre dit humainement, c'est logique, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas le plan, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et le Seigneur montre aussi clairement, quand il dit arrière de moi, Satan, tu n'as que des pensées humaines, le Seigneur montre en réalité l'infinie supériorité de la pensée de Dieu. Mais il montre qu'entre la pensée de l'ennemi et la nôtre, bon, ça fait très bon ménage, et puis ça se mélange allègrement, tout ça. Alors, oui, bien sûr, l'ennemi est lié, il est vaincu, comme je vous l'ai dit, mais le Seigneur, s'il l'a lié, ne l'a pas bâillonné. L'ennemi peut encore souffler des pensées, il peut encore parler. Parce que dans le royaume spirituel, tout est parole. Parce que mon frère, ma sœur, il faut que tu puisses avoir deux sons de cloche, il faut que tu puisses avoir, même chrétien, avoir encore deux voix, il faut que tu puisses avoir encore le choix, même enfant de Dieu, entre deux façons de penser. Et tu restes libre de tes pensées. Tu restes responsable de tes pensées. Et il faut absolument que j'entende, que j'analyse à la lumière de la parole et que je me positionne. Et c'est pour ça que le Seigneur permet que le diable soit lié, mais pas bâillonné. Et je suis prudent, méfiant sur la question de mes pensées. Pourquoi est-ce qu'il faut penser comme Dieu pense? Parce que la pensée humaine, c'est ce que dit le psaume 94, verset 11, verset 19, la pensée humaine est vaine. Elle est inutile, elle ne sert à rien. Dieu connaît la pensée de l'homme, Dieu connaît les pensées des hommes et il sait qu'elles sont vaines, inutiles, sans fondement, inefficaces, improductives, stériles. Elles mènent dans le mur, elles nous font tourner en rond, elles ne servent, les pensées humaines ne servent à rien. Même si elles sont pleines de bons sentiments, elles ne servent à rien. Une seule pensée est bonne, c'est celle de Dieu. Et le problème, c'est qu'en plus, ces pensées qui sont vaines et inutiles, le verset 19 rajoute que ces pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce petit test, cette expérience. Moi, je la fais souvent. Des fois, je voudrais vraiment, quand je m'allonge, ça m'arrive des fois, je dis, ah, c'est bon, allez, 5 minutes. Non, en fait, ce n'est pas 5 minutes. Hein. Très honnêtement, c'est 20 minutes. Ah, je voudrais penser à rien. Vous n'avez pas des moments où vous avez envie de penser à rien? Ouais, hein, on est tous pareils. Et là, vous vous mettez bien, et puis, ah, oh, voilà. Et au moment où vous êtes allongé, paf, la machine se met en marche. Et il m'a dit ci, et il m'a dit ça, et j'ai pas fait ci, et j'ai oublié ci, et j'ai oublié ça. Mais les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Pourquoi? Parce que je suis un être pensant. Je suis à l'image de Dieu, vous êtes à l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire autre chose que de penser, nous sommes obligés, nous sommes nécessairement habités, nous sommes toujours habités par une, plusieurs pensées. Malheureusement, beaucoup de pensées ne nous font pas du bien, ne nous font pas de bien du tout. Beaucoup de frères et sœurs, partout, pas ici, partout, sont gentils, ils aiment le Seigneur, ils sont bienveillants. Mais pardon, mais leur pensée, c'est une véritable torture. Torturé dans l'être intérieur, torturé dans les pensées, des pensées agitées, des pensées nombreuses, des pensées compliquées, des pensées ambivalentes, des pensées, un être intérieur qui est pollué par des pensées qui sont humaines. Les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. La pensée de Dieu, c'est pour ça que nous apprenons à penser comme Dieu pense. Nous apprenons à évincer ce qui n'est pas de Dieu et nous apprenons à penser comme Dieu pense. Parce que la pensée de Dieu est infiniment supérieure, sa pensée à lui, elle est pure. Sa pensée comme sa parole. La parole n'est que le prolongement, l'expression verbale et ensuite écrite, éternelle, gravée, infaillible, n'est que l'expression de sa pensée. Sa pensée est éprouvée. Sa pensée est fiable, sa pensée est sûre, sa pensée ne se trompe jamais, sa pensée est pure, sa pensée est infiniment supérieure, Ésaïe 55. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, puis je pense qu'entre les cieux et la terre, il commence à y avoir une certaine distance. Hein. Surtout quand on commence à arriver dans la ionosphère et compagnie, ça va loin, ça va haut. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix, c'est-à-dire ma façon de faire, de procéder au-dessus de vos voix. Ésaïe 55, le psalmiste, psaume 92, dit « Oh Dieu, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. » Pensée de Dieu, plus élevée que les cieux, largement au-dessus des nôtres, est tellement plus profonde que les nôtres et tellement plus efficace. Alors oui, Jérémie, quand tu dis « Quand je pense, je suis comme toi, je le conçois très bien et j'ai compris, je ne peux pas faire autrement que de penser. » Mais quand tu dis « Quand je pense », c'est là le danger. Et c'est là le commencement des problèmes. Et c'est bien ça le problème. Le problème, c'est ce que tu penses. Le problème, c'est ta façon de penser. C'est ça le problème. C'est ce qui t'habite à l'intérieur. Je ne peux pas ne pas penser. Je suis toujours habité par une pensée, bonne ou mauvaise. Et ensuite, ma pensée, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle soit véhiculée par des mots ou par de l'écrit. Mes pensées, puisqu'elles sont corrompues, puisqu'elles sont inutiles, mes pensées me rendent vulnérable. Et là, Jérémie est dans une authentique période de faiblesse, il est même, je vais vous montrer, sous une forme, il est sur un chemin descendant, il est sur un chemin de ce qu'on appelle vraiment de dépression. Son âme est en train de le tirer vers le fond. Et là, il est vraiment vulnérable. Mes pensées me rendent vulnérable. C'est pour ça que mes pensées, dit Philippiens chapitre 4, mes pensées ont besoin d'être gardées par la paix du Seigneur. La paix de Christ en vous gardera vos cœurs et vos pensez dans la paix de Jésus. Mes pensées ont besoin d'être gardées par le Christ. Toute pensée ensuite, comment je fais pour savoir? Le Seigneur nous a laissé sa parole. Toute pensée, bien aimée, doit nécessairement, peu importe ce que tu penses, peu importe le sujet sur lequel tu penses, toute pensée, quelle qu'elle soit, doit passer au tamis. Elle doit être filtrée par la parole. Hébreux chapitre 4, verset 12, je vous ai mis ici. Toute pensée doit être filtrée par la parole. C'est la parole qui me dit si ce que je pense vient de Dieu ou de moi ou de l'ennemi, mais enfin, bon, ma nature corrompue par le péché, vous avez compris. Tout ça, ça fait bon ménage ensemble. La parole de Dieu, dit l'Épître aux Hébreux, Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Elle est pénétrante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Elle est pénétrante jusqu'à partager jointure Emmuel, qu'est-ce que ça veut dire cette image? Ça signifie tout simplement que la parole de Dieu, quand elle pénètre mon âme, elle a cette capacité, si je la laisse agir par le Saint-Esprit, elle a cette capacité de séparer ce qui est de moi ou de l'ennemi et ce qui est de Dieu. Et quand je pense, mes pensées filtrées par la parole me dit, ça c'est moi. Attention Steph, ça c'était pas moi. Fais attention à ce que tu penses, fais attention à qui tu vas suivre, fais attention à ce que tu vas dire dans cette situation. Ça c'est pas ma pensée. La parole de Dieu, d'une façon ou d'une autre, me donne toujours la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que le texte d'Hébreux 4:12 termine en disant, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pas juger au sens effectuer un jugement, une sentence dans un tribunal. Non, non, elle juge au sens de statuer. Elle évalue, elle pèse, elle sous-pèse, elle statue. Cette parole vivante qui m'a pénétré fait la différence, elle m'aide à faire la différence entre la pensée de Dieu en moi et la pensée de l'ennemi ou moi. Et c'est dans ce sens qu'elle juge, c'est-à-dire qu'elle statue si les pensées de mon cœur sont de Dieu ou pas. Et voilà ce que fait la parole, logiquement, dans chacun de nos cœurs. Donc j'apprends à soumettre ma pensée, j'apprends à soumettre, à mettre sous. J'apprends à mettre ma pensée sous la pensée supérieure de Dieu et à l'abandonner pour qu'il me dise, ça c'est moi, tu gardes cette pensée, elle va fortifier ton cœur et ta marche. Ça c'est pas de moi, il faut que ça dégage. Et il faut absolument, bien aimé, que nous sachions dans nos cœurs quelle est la pensée de Dieu. Et que ces pensées, évidemment, puisqu'on est forcément habité par une pensée, il faut que les pensées contraires s'en aillent, et il faut que la pensée de Dieu s'installe. Une pensée ne peut être remplacée que par une mauvaise pensée. Une mauvaise pensée ne peut être remplacée que par une bonne pensée. Mais une pensée remplacera toujours une pensée. Et c'est quoi le combat spirituel? Il y a des gens, ils s'imaginent, ils sont là dans la prière, ils s'imaginent avec des petites épées, des petits boucliers, ils s'imaginent que Jésus est le diable dans le désert. Le combat. Le combat spirituel, c'est quoi? Le combat spirituel, c'est un combat d'esprit. Pensée contre pensée. La pensée de l'ennemi, la pensée de Dieu. Pensée contre pensée. Et toi, mon frère, ma sœur, pardon pour le micro, t'es au milieu. Choisis ce que tu veux penser. Tu es au milieu. D'où le tiraillement. D'où le combat de pensée. D'où les pensées qui s'agitent en foule. C'est quoi le combat spirituel? C'est un combat de pensée. Et il faut absolument que par l'esprit et par la parole, j'évince de mon cœur les pensées qui sont anti-bibliques. Anti-biblique, c'est pas au sens qu'on est contre Dieu, c'est-à-dire que des pensées qui remplacent la pensée de Dieu. Anti, à la place de. Des pensées anti-bibliques, des pensées qui remplacent la pensée de Dieu dans mon cœur. La pensée de Dieu, si je le veux, peut chasser les mauvaises pensées, m'installer dans la pensée de Dieu et me donner la force, la vigueur, l'épanouissement dont j'ai besoin. Donc j'apprends, pardon, je garde le micro, vous pouvez rebaisser les frères. J'apprends à abandonner ma pensée, merci, à l'autorité de la parole, qui va redresser ma pensée déviante. Ça va toujours? Vous êtes content d'être venu? Oui? Ok, alors on continue. Ah, ça aussi, l'apôtre Paul, il en met quand même aussi une couche là-dessus, pour nous montrer à quel point nos pensées sont puissantes et peuvent vraiment poser un authentique problème dans nos vies. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, même le verset 4, l'apôtre Paul dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ce sont des armes spirituelles, des armes de l'esprit, la parole. Ce sont des armes spirituelles. Ces armes sont efficaces, dit-il, avec ces armes spirituelles. Nous renversons des raisonnements, dit Paul. Nous renversons par l'arme spirituelle de la parole. » Nous renversons des raisonnements. Là, on est dans du systémique, un système de pensée. Nous renversons un système de pensée et toute hauteur pardon, dit Paul, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée, parce que les pensées s'agitent comme des papillons, ça va dans tous les sens, et le plus difficile, c'est que par la parole, dit Paul, nous saisissions les pensées, nous amenons toute, chaque, P-A-S en grec, passe, n'importe quelle pensée, toute pensée, quelle qu'elle soit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mes frères et sœurs, un disciple, homme ou femme, mature, c'est quelqu'un qui a saisi ce qu'est le véritable combat spirituel, où se trouve l'enjeu des pensées, et qui a, par l'esprit et par la parole, capable d'attraper chacune de ses pensées et de les amener captives aux pieds de Jésus. Et à ce moment-là, Jérémie, comme David à son époque dans un autre contexte, le compte n'y est pas, Jérémie. Et quand il parle de ces hauteurs, de ce houpsoma, littéralement, l'idée, c'est vraiment les remparts que l'on avait dans les forteresses. Les remparts, les murailles. L'apôtre Paul est en train de dire « Nos pensées, bien-aimées, peuvent être comme des murailles qui s'élèvent, qui nous empêchent, la connaissance de Christ, qui nous empêche de connaître Dieu convenablement et qui nous empêche de lui obéir. » C'est-à-dire que, faute de connaissance, parce que des murailles de pensées sont en moi, ces pensées m'empêchent d'être la personne que Dieu veut que je sois. Juste pour une histoire de pensée. Ces pensées m'empêchent de faire ce que Dieu attend de moi. J'ai fait cette expérience un jour, quand je vous ai raconté mon témoignage au mois d'avril. Je vous ai dit qu'après, dans les années 2005-2006, après une grande période de désert, le Seigneur m'avait vraiment fait prendre conscience, m'avait réveillé, m'avait saisi une nuit, que j'étais revenu de tout mon cœur à la parole. Et alors que j'étais revenu à la parole et que la parole était pour moi un livre nouveau, que je découvrais des trésors, des richesses, je reprenais ma Bible, je prenais mon cahier, mon stylo, mon ordinateur, je passais des heures la nuit à étudier, à travailler, à prier, à noter, je découvrais des choses à nouveau fantastiques qui enthousiasmaient mon cœur et ma vie dans un certain sens, et en même temps, je me souviens, la première fois que j'ai réouvert ma Bible, après des mois et des mois, j'ai ouvert le prophète Daniel. Et en lisant le prophète Daniel, j'étais émerveillé de voir des hommes de cette qualité, de cette trempe, de voir ces hommes de Dieu. Et là, dans mon cœur, avec des heures et des heures et des heures, d'études, de travail sérieux. Mon beau-père, il voyait qu'il y avait des choses qui changeaient en moi. Il me disait, comment tu vas? Je dis, ben ça va, je travaille ça. Il me dit, ben tiens, tu me montreras un petit peu. Ah, j'avais fait une étude sur ci, une étude sur ça, je grattais, j'étais... Ça m'enthousiasmait, mais en même temps, mon beau-père avait vu qu'il y avait un truc qui passait pas, ça bloquait. Puis je lui montre, puis il regarde, et quelques jours après, il me dit, mais c'est bien ça. C'est bien, t'as compris, vas-y, continue, vas-y, vas-y avec Dieu. Puis il voyait que j'étais pas épanoui, j'étais bloqué. Et puis, il dit, mais c'est quoi? Il dit, il n'y a pas de problème, c'est quoi le problème? Vas-y, continue, avance. Et là, j'avais une pensée, frères et sœurs, par 50, j'avais une pensée dans mon cœur. Une. Mais qui rendait des heures de travail biblique et de prière inefficaces et stériles. Une pensée. J'entendais une voix qui me disait, t'as vu ces hommes comment ils étaient. Tu as tout raté. Tu es dans l'échec. Tu as tout raté. Tu as gâché ta vie. Tu as gâché, j'avais 35 ans. Tu as gâché ta jeunesse. Tu as gâché, tu as raté. Et j'entendais une voix qui me disait, voilà où je t'attendais. Chapitre 2, voilà où je t'attendais, tu n'y étais pas. Chapitre 3, voilà où je t'attendais, tu n'étais toujours pas là. Chapitre 4, voilà où je t'attendais. Et chaque fois que je voyais un truc merveilleux, j'imaginais un Dieu avec un marteau immense qui me disait, voilà où je t'attendais, voilà qui tu n'es pas, voilà qui tu es, voilà ce que tu n'as pas fait. Et ça m'oppressait, ça m'écrasait. Et je dis à mon beau-père, je lui dis, mais je dis, tout ça c'est merveilleux. Je dis, mais si je... Dans mon cœur, je sens que Dieu est en train de me dire, voilà où je t'attendais et qui n'était pas. Et mon beau-père me dit, non, Dieu n'est pas en train de te dire, voilà où je t'attendais. Dieu est en train de te dire, voilà où je veux t'emmener. Une pensée s'en va, une pensée revient. La pensée ennemie s'en va, la pensée de Dieu vient. Et il n'était plus question, voilà où je t'attendais. Non. Mon beau-père me dit, Dieu te dit, voilà ce que je peux faire avec ta vie si tu me la livres entièrement. Oh merci Seigneur, une pensée, ça m'a libéré, ça m'a délivré et j'ai avancé. Merci mon Dieu. Frères et sœurs, dites-moi ce que vous pensez, je vous dirai qui vous êtes. Une pensée peut paralyser la totalité de votre vie chrétienne et de votre restauration. Voilà l'enjeu. Voilà pourquoi c'est salutaire de penser comme Dieu et de faire le tri, le ménage dans nos pensées. Mes pensées, bien-aimées, vous l'avez compris, sont un excellent révélateur, un excellent indicateur de ma santé spirituelle. Le proverbe 23 dit que l'homme, ou la femme, hein, on parle de l'être humain, on parle, voilà, c'est pas ish, c'est pas l'homme, c'est l'être humain, homme ou femme. L'homme n'est pas autre chose que ce que sont les pensées de son âme. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce que je suis, ce n'est pas ce que je laisse paraître. Ce que je suis, ce n'est pas ce que je possède. Ce que je suis, ce n'est pas ce que j'accomplis ou ce que je fais. Ce que je suis, c'est ce que je pense au plus profond de mon être. Si je vais voir un frère, je lui dis, ah, salut frère, ça va, je suis content de te voir, c'est bien, t'es venu, merci Seigneur. Bien, génial, c'est bien. Puis à l'intérieur, je me dis, oh, mais qu'est-ce qui m'embête, celui-là, mais il me saoule. Alors, ouais, bon. Bon culte, hein, Dieu te bénisse. Hop, mon frère, ma sœur, ce que tu es, c'est ce que tu penses. Ça, c'est ton véritable visage. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es. Pour revenir à Jérémie, parce qu'on comprend un petit peu l'ensemble du système de pensée, même si ce serait l'objet de toute une étude. Pour revenir à Jérémie, quand je pense à ma détresse, est-ce qu'il n'a pas des raisons, Jérémie ? Bien sûr qu'il a des raisons. Il a ses souffrances personnelles en tant que prophète de l'Éternel. Il est amené par obéissance à Dieu à apporter dans un contexte difficile un message à un peuple qui ne veut pas de ce message et qui a été clair, qui lui a dit « Non, Jérémie, nous suivrons nos pensées et nous suivrons les penchants de notre cœur. Et puisque tu ne comprends pas ce que nous te disons, tu vas aller faire un séjour dans une citerne et tu vas comprendre à quoi nous pensons quand nous te disons non. » Donc Jérémie a-t-il des raisons, lui ? Bien sûr qu'il a des raisons. Il a même des raisons sérieuses d'être inquiet, inquiet pour lui-même, inquiet pour l'avenir. Il est inquiet pour le peuple. Évidemment, il y a des inquiétudes légitimes autant pour lui que pour celui du peuple au sujet de la déportation, de la souffrance qui lui est occasionnée. C'est tout un contexte. Mais dans ce contexte, même si humainement parlant, il a des raisons de, malheureusement ici, sa pensée, la pensée qu'il entretient, n'est pas la pensée de Dieu. Il entretient des pensées qui sont comme un poison et qui ont des conséquences néfastes sur son âme qui est en dépression, qui est en train de descendre. La version Semeur est très intéressante quand je pense à ma détresse, à l'absinthe, au poison. La version Semeur a traduit ainsi « Sans cesse je m'en souviens. Sans cesse je m'en souviens. » Vous savez ce qui se passe à ce moment-là ? Qui nous ne peut jamais nous arriver, c'est qu'à ce moment-là, Jérémie, il est en boucle. il est en boucle. Ses pensées le font tourner en rond. Jérémie, à ce moment-là, est en boucle. Et son âme, sous la pression de ses pensées qui ne sont pas celles de Dieu, oui, il y a la blessure, oui, il y a le trauma, oui, il y a le choc, oui, il y a la peine, oui, il y a des besoins d'âme, oui, il y a un besoin de restauration. Certes, c'est vrai, oui, c'est naturel pour l'âme, malheureusement, de ressasser, de tourner en rond et d'être en boucle. Mon âme n'a rien à faire pour être en boucle, elle le fait toute seule. Sans cesse, je m'en souviens. Mais son âme est en train de le tirer vers le fond, ce « chouar » en hébreu, qui signifie littéralement « s'effondrer ». Mon âme est en train de couler. Elle s'effondre, mon âme est en train de descendre. Ici, Jérémie, dans ces quelques mots, a déjà mis le pied, il nous montre un principe, un engrenage qui est le commencement de la dépression. C'est ça que Jérémie est en train de nous montrer ici. Alors, ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, pardonnez-moi de le dire ainsi, même quand nous sommes fortement blessés, même quand nous avons bien des raisons, humainement parlant, de nous inquiéter, même si nous n'avons pas forcément compris que naturellement notre âme, dans cette espèce de spirale, de boucle infernale, était en train de descendre, la bonne nouvelle, si vous me permettez l'expression, la bonne nouvelle, c'est que la blessure, certes, fait des dégâts, mais elle ne détruit jamais votre volonté. Dieu a fait en sorte que vous soyez toujours libre de votre volonté. Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le libre arbitre. Il faut réagir. Tu peux réagir. C'est à toi de réagir. Jérémie a réagi. La bonne nouvelle, c'est que sa blessure, la circonstance, certes tragique, parce qu'on parle d'un prophète qui se fait laminer, et on parle d'un peuple qui vit des douleurs et des souffrances terribles. La bonne nouvelle, malgré tout, pardonnez-moi de le dire ainsi, c'est que la blessure n'a pas annihilé ta volonté. La blessure, la douleur, n'a pas effacé ta capacité de choix et de positionnement. Il faut que tu réagisses. Personne ne réagira à ta place. Tu peux réagir. Tu dois réagir. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Jérémie a réagi, il a bien réagi, et même il a vite réagi. Il a mis un stop aux pensées de son âme. Il a dit, mais voici, oui, il y a la détresse, oui, il y a le poison, oui, il y a l'absinthe, oui, il y a mon âme, oui, il y a tout ça, mais voici ce que je veux. Mes bien-aimés, et vous, répondez dans votre cœur, vous voulez quoi? Je sais qu'il y a bien aimé des situations dans nos vies qui sont horribles. J'en ai parfaitement conscience. Des situations qui sont horribles. Des douleurs qui sont à peine nommables. Mais quand l'ennemi de ton âme, parce que c'est l'ennemi qui te dit, c'est trop dur, tu t'en sortiras pas. C'est fini. Ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et c'est encore faux. Parce qu'il ne sait que mentir. Il ne fait que mentir. Voici ce que je veux. Décide-toi. Prends position. Choisis. Secoue ta poussière. Jette ton fardeau sur l'Éternel. Bouge, réagis, fais quelque chose. C'est à toi de le faire. Dieu t'a laissé, il y a dans notre âme, dans la façon dont on est fait, il y a des ressources que nous ne soupçonnons pas, bien sûr les ressources nous viennent de Dieu, mais il y a des marges en nous qui ne sont absolument pas... On ne peut pas les détruire. Il reste toujours une part, même dans la souffrance la plus extrême, il reste toujours une part de capacité de choix, de volonté, de liberté. Tu ne dois pas être esclave de ta blessure. Certainement pas. Alors Jérémie a réagi, pardon, il a bien réagi, il a vite réagi, il a mis un stop aux pensées de son âme pour se reconnecter par choix personnel, volontaire, à la pensée de Dieu. C'était le seul choix logique. Il fallait reconnecter sa pensée. Il fallait réaligner la fréquence sur la fréquence divine, sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la nature de Dieu. Voici ce que je veux. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, au fond de sa misère, au fond de sa détresse et de celle de son peuple. Jérémie a repassé. Il s'est réaligné sur la fréquence divine. Et vous savez le comble du comble des merveilles de la parole de Dieu dans l'original. Nous n'avons que des traductions, c'est déjà super. Mais l'original est beaucoup plus intéressant. Je vous l'ai mis. Vous savez ce qu'il dit quand il dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur ?» Chouv. Exactement le même mot que David a prononcé dans le psaume 23 quand il dit « Il restaure mon âme. » Pas David. Jérémie, voilà. Ouais, aujourd'hui, c'est Jérémie. Jérémie dit « Voici ce qui va me restaurer. Je vais choisir de réaligner ma pensée sur la fréquence divine. Voici la pensée, dit la version Sommer, encore une fois, là la traduction est vraiment un cran au-dessus. Voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Parce qu'il s'est dit, quitte à être toujours habité par une pensée, quitte à être un ruminant, parce qu'au cas où vous n'auriez pas remarqué, nous ne sommes pas des vaches, mais nous sommes des ruminants. Les pensées tournent dedans de nous, on a tous bien compris. Et à ce moment-là, Jérémie il dit, voici ce que je veux, chouv, dans mon être intérieur, voici les pensées qui vont aider et qui vont me conduire à la restauration. Voici ce que je veux, ruminer en moi-même. Avant, je ruminais ce qui n'allait pas, j'ai mis un stop aux pensées de mon âme, je me suis reconnecté à la pensée divine, et maintenant, je vais continuer à ruminer. Mais là, je vous garantis, je vais ruminer autre chose. Et ce que je vais ruminer va me faire énormément de bien, parce que ça va être le chemin de ma restauration. Voici ce que je veux repasser, voici ce qui va me restaurer, me remettre sur pied. Et là, on n'a plus le même homme. Fini l'abattement, fini l'apitoiement, fini les jérémiades, pardon pour le jeu de mots, fini les plaintes. Fini le désespoir, fini la dépression. On n'a plus le même homme. Le regard est nouveau, la vision est nouvelle, le point de vue est nouveau, la façon de considérer les choses, son discours même est nouveau quand on est reconnecté à Dieu, frères et sœurs. La vision des choses change. Quand on a des pensées nouvelles, on a un discours nouveau. Et là, Jérémie, il me dit des trucs. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est une blague ? Combien trouvent que c'est bon d'attendre Non, vraiment pas. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais vas-y Jérémie, remets-en une couche. Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse. Qu'est-ce que tu racontes ? Personne n'aime attendre, personne trouve ça bon, personne n'aime avoir un joug. Vous savez, le joug, c'est ce qui va être sur moi et qui va m'empêcher d'aller où je veux. Le joug sur moi va me conduire. Personne n'aime aller là où il n'a pas envie. Comment est-ce qu'il peut parler ainsi ? Parce qu'il est revenu à une perspective divine, des circonstances, des situations. Le regard est nouveau, donc le discours est nouveau. Lui aussi est revenu à cette intimité. L'Éternel est mon partage. Il s'est passé quelque chose de fort en termes de communion et de relation. Il y a un partage. Il ne s'agit pas de ce que tu fais. Il ne s'agit pas de ton activité. Il ne s'agit pas d'eux, il ne s'agit pas d'eux. Il ne s'agit pas de savoir si tu as lu ton feuillet de calendrier ou ta page de Bible ce matin. Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de ce qui sort de ta bouche dans la prière. Il ne s'agit pas de tes lectures. Je vous ai démontré que des lectures bibliques peuvent être inopérantes. Il s'agit de qu'est-ce que tu as réellement partagé en termes de cœur à cœur avec ton Seigneur. Qu'est-ce que tu as partagé? L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Et quand on est branché sur l'essentiel, attendre n'est plus une frustration. Vous savez pourquoi? Pourquoi c'est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel? Parce que je sais qu'il est en train de préparer le meilleur. Donc c'est bon d'attendre, parce que je sais que ce que lui va m'amener plus tard sera meilleur que ce que moi je voulais m'amener aujourd'hui. Quand on sait qui est Dieu, quand on sait qu'il est en train de nous préparer le meilleur, l'attente devient sereine, l'attente est paisible, même joyeuse. Parce que je suis dans sa perspective, je suis dans son plan, je suis dans son temps. Voilà pourquoi c'est bon d'attendre. Attendre en silence. Attendre en silence, ça ne veut pas dire que je ne prie plus. Hein. Attendre en silence, ça signifie simplement que il ne va plus sortir de paroles négatives de ma bouche. Il n'y aura plus de propos anti-biblique à la place de anti, à la place de, il n'y aura plus de propos anti-biblique, puisque de toute façon je sais que mon Seigneur est en train de me conduire vers le meilleur, donc j'ai la bonne pensée, j'ai les bonnes paroles, puis par moment vous savez ben on dit rien, on est dans le partage avec le Seigneur. Merci mon Dieu, tu feras ce que tu as à faire comme tu veux, quand tu veux, en son temps, avec qui tu veux. Mais moi, je sais qu'en son temps, ce que tu fais est parfait. Alors, je suis heureux de t'attendre. Merci, Jésus. Et voilà aussi pourquoi, je termine avec ça, pourquoi il est bon de porter le joug dès la jeunesse, dans la jeunesse, dès la jeunesse. Parce que c'est une façon pour lui, en d'autres termes, de reconnaître son besoin d'être conduit, son besoin d'attendre le secours de Dieu, mais son besoin aussi d'être conduit, puisque le joug, vous le savez, j'espère, sinon je vous le dis, le joug, c'est ce que l'on met, c'est ce que l'on mettait sur des animaux pour pouvoir les conduire. Mais le joug de Christ, Jésus dit bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Mon joug est doux, mon joug est léger. Amen. Le joug des pensées de Satan, le joug du péché, le joug qui nous conduisait dans ce qui nous fait rougir aujourd'hui, le joug du péché, de la mort, de Satan, etc., etc., de l'esclavage, était un joug tyrannique, destructeur, oppressant, qui nous amenait dans des pensées humaines, dans la chair, dans l'ennemi, qui nous amenait à une destruction, et le joug de cette autorité était destructrice. Mais bien aimé, mais nous devons absolument, nous ne pouvons pas vivre sans un joug. Il y aura forcément une pensée en nous, il y aura forcément une pensée en toi, mais il y aura aussi forcément un joug sur toi. Et quand par la nouvelle naissance, la repentance, la foi, le Seigneur brise sur nos vies le joug du péché et de l'esclavage, alléluia! Mais là le Seigneur me dit, mais ne reste pas sans rien, sinon le joug va revenir sur toi. Soumets-toi, mets-toi volontairement sous, soumets-toi, mets-toi sous mon joug, parce que mon joug à moi, il ne va pas t'écraser. Mon joug n'est pas destructeur, mais il faut un joug, parce que ce joug, il faut absolument que tu sois conduit. Mais ce joug de l'autorité de Jésus, de sa volonté, est salutaire, bien réel, mais volontaire, parce qu'il nous construit. Alors j'apprends, et c'est ce que Jérémie a compris. Non seulement il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, mais il est bon aussi pour moi, dès ma jeunesse, de me mettre volontairement sous son joug et de me laisser conduire par sa main bénissante et bienfaisante. Amen. Voilà comment Jérémie, vous l'avez compris, je le précise au cas où, il n'y a pas de pensée positive. Ça, c'est un subterfuge diabolique. Il n'y a pas de pensée positive. Ce sont les pensées de la parole de Dieu
qui restaure nos âmes. Voilà comment Jérémie est devenu acteur de sa propre restauration. Il a mis un stop aux pensées de son âme qui le tiraient vers le bas. Il a bien réagi. Il a arrêté de ruminer. Il s'est débranché de radio circonstance. Il a rebranché, il a réaligné la fréquence sur celle de Dieu. Il a recommencé à penser comme Dieu pense. Et il a réagi parce qu'il avait le choix, comme moi, comme vous. Voici ce que je veux ruminer maintenant. Je vais penser que les bontés, la fidélité, les compassions, j'avais oublié une image, la fidélité de Dieu sont mon partage. Voilà, ça je vous l'ai dit. Voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Et combien sa fidélité est grande pour moi et pour toi. Amen. Vous voulez bien qu'on se recueille un instant? S'il vous plaît, merci beaucoup.